Oh non, monsieur, avec Jupiter et Uranus en Sagittaire, je ne vois aucun cambriolage chez vous dans un avenir proche.
Vous êtes sûr, hein?
Oh, bah tout à fait sûr. Vous savez, les cartes ne mentent jamais, monsieur.
Pour partir tranquille, confiez plutôt votre maison aux professionnels Vérissure. Vérissure par Securitas Direct, numéro 1 européen des alarmes télésurveillées.
Par contre, je vois quelqu'un devant chez vous avec un pied de biche en ce moment.
Pardon? Pour une installation gratuite, appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verissure.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Cette année, c'est Franck Ferrand qui a été choisi pour être le parrain des championnats du monde des jeux de force écossais, les Highland Games, qui, comme tous les ans depuis 7 ans, vont se tenir à Bressuire, dans les Deux-Sèvres. L'occasion pour lui d'évoquer aujourd'hui l'Écosse et ses traditions. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Je vous rassure tout de suite, je ne meuble pas mes loisirs à retourner des troncs d'arbres, ni à jeter de grosses pierres le plus loin possible. Quand on me voit, on pourrait plutôt imaginer que je retourne des branchages, ou des brindilles peut-être, mais sûrement pas des troncs. En effet, nous allons néanmoins nous retrouver samedi à Bressuire autour des plus grands champions mondiaux de ces jeux de force hérités de la culture écossaise. Une Écosse que j'aime beaucoup par ailleurs, vous le savez, et dont je vais vous parler avant de recevoir un habitué de cette émission, Jean Durie, grand connaisseur du sport, de tous les sports, y compris des sports de force.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Diala sur l'origine de l'expression « au diable Vauvert ».
Eh bien voilà, pour le moment, nous allons y aller tout de suite. Au oui. Diable Vauvert, si vous le voulez, chère Ombline. Je vous propose, comment dire, pour nous mettre en appétit, une petite manche de tir à la corde, sauce Scottish.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
On a beaucoup parlé de l'Écosse sur cette même antenne il y a quelques semaines, à l'occasion du célèbre référendum, bien entendu. On a demandé aux Écossais s'ils voulaient demeurer attachés au Royaume-Uni, s'ils voulaient rester dans le Royaume-Uni ou s'ils voulaient devenir une nation indépendante. Je précise bien indépendante, car pour ce qui est d'une nation, ils en sont déjà une. Et croyez-moi, quand vous êtes en Écosse, il n'est pas question de confondre les Écossais avec les Anglais, Britanniques. La plupart veulent bien l'admettre. Anglais, évidemment sûrement pas. L'anglais là-bas, c'est l'ennemi héréditaire un petit peu comme chez nous. Du reste, c'est assez étonnant. Il y a d'autres nations au Royaume-Uni. Évidemment, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, etc. D'une façon générale, on peut dire que l'Écosse a très tôt cultivé ses particularismes. Il y a quelques années, j'avais écrit avec Stéphane Bern un ouvrage sur le fascinant château de Cawdor qui se trouve tout à fait dans le nord de cette région tellement extraordinaire. Et nous avions appelé le livre « Au cœur de l'Écosse ». Pas au cœur de l'histoire, au cœur de l'Écosse. En vérité, on aurait dû l'appeler « Au cœur des Highlands ». Car quand on parle de l'Écosse, il faut bien être conscient qu'on parle de trois régions. Celle du sud, qu'on appelle les Uplands, qui est une sorte de grande étendue de terres agricoles vaguement vallonnées. Les Lowlands, les basses terres situées au centre du pays et qui rassemblent près des trois quarts de la population. C'est là que sont les grandes entreprises, c'est là que sont les grandes villes, tout simplement. C'est l'activité, c'est le poumon de l'Écosse. Et puis alors, quand vous allez là-haut, si je puis dire, que vous vous rapprochez du cercle polaire, que vous allez dans les hautes terres, les Highlands, ça veut dire les hautes terres, alors là, c'est une autre histoire. Cette région est coupée en deux par une faille géologique, qu'on appelle le Glen Moore. Et c'est le long de cette faille que vous avez les fameux étangs, vous savez, ces lacs en vérité, le long du canal calédonien qui rejoint la mer du Nord à l'est à Fort William et au-delà à l'océan Atlantique. Et vous avez là le lac Lochy, le Loch Ness, le fameux Loch Ness qui, dit-on, est habité par une drôle, par une étrange créature. On va parler un peu justement du folklore et des traditions écossaises aujourd'hui dans cette émission, c'est le moment ou jamais, puisqu'on est au cœur des Highlands et qu'on va évoquer les Highland Games. Alors, Le panorama de ces Highlands, disons-le, est un des plus beaux qu'on puisse voir en Europe. C'est quelque chose de fascinant, c'est à couper le souffle. Vous êtes dans une zone montagneuse qui est entaillée de vallées profondes, des vallées qui ont été creusées là par des glaciers autrefois. On appelle ces vallées les glens. Et puis, je vous le disais, d'innombrables lacs, des bras de mer qui entrent dans les terres avec des falaises majestueuses, des plages, etc. Et puis, une lande sublime qui est couverte de cette extraordinaire bruyère, de fougères sauvages, avec des rochers énormes qui ont l'air de surgir ça et là. Tout ça est très extraordinaire. Si vous aimez la pêche au saumon, évidemment, si vous aimez la chasse à la grouse, c'est là qu'il faut aller. Ce sont des régions incroyables. Vous savez, la propriétaire du château de Cawdor, la comtesse douairière de Cawdor, que je salue très chaleureusement, et avec laquelle nous avions écrit ce livre avec Stéphane, il y a quelques années, nous racontait qu'un jour elle se trouvait dans la boutique de Coco Chanel à Paris et elle voit une sublime, une merveilleuse, un tissu incroyable, une étoffe, vous savez, qui présentait des reflets moirés de mauve, de parme, de rouille, de paille mêlée, tout ça, un vrai tissu chiné à la Chanel, bien entendu. Elle dit, mais quelle merveille, mais quelle merveille. Elle demande à Mademoiselle Chanel, mais d'où vous est venue l'idée de mêler tous ces fils pour avoir cette couleur tellement incroyable? Et Coco Chanel lui a répondu « Oh ça mon petit, c'est l'Écosse ». Et c'est vrai que lorsqu'on est dans l'Écosse et qu'on voit le vent faire ondoyer, ça crée comme des vagues, hein, cette lande aux couleurs tellement subtiles qui viennent se mêler aux couleurs non moins subtiles d'un ciel souvent très tendre, rosé, mauve, étonnant. On ne peut qu'être saisi, on ne peut que ressentir des frissons. Les Highlands d'Écosse, nous dit Bernard Sellin dans « Écosse des Highlands », mythe et réalité, les Highlands d'Écosse ont toujours constitué un monde à part. À l'extrême nord-ouest du pays, dans une région montagneuse pendant longtemps pénétrée par de rares routes et handicapée par les rigueurs d'un climat peu amène, les hautes terres sont restées à l'écart non seulement de la Grande-Bretagne encore, mais encore du reste de l'Écosse. C'est dans ces conditions que se constitua une culture originale qui fut préservée jusqu'au XVIIIe siècle avant d'être progressivement anéantie. Pourquoi est-ce que cette culture va se préserver jusqu'à son anéantissement? Eh bien parce qu'il y a une date dont j'ai eu l'occasion de vous parler déjà ici. C'est cette date du 16 avril 1746, la célèbre bataille de Culloden, au cours de laquelle les héros des Highlands, tous les chefs symboliques des clans qui constituent le cœur et qui constituent le tissu social de ces Highlands ont été écrasés par les Anglais. Ça a été une blessure, une meurtrissure dont l'Écosse, d'une certaine manière, ne s'est jamais remise et dont les Highlands, aujourd'hui encore, portent la meurtrissure. Alors, je vais vous parler dans un instant des différentes traditions des Highlands, et puis je vous dirai quand même un mot de cette bataille de Culloden, parce qu'elle a été tellement essentielle qu'on ne peut pas sauter dessus à pieds joints. Je vous propose d'aller faire un petit tour dans cette région des Highlands. Nous allons parler dans un instant des clans, des tartans, de la panse de brebis farcie, pourquoi pas, et bien entendu, des cornemuses.
Cœur de l'Écosse, cet après-midi, et Franck Ferrand, nous arpentons à vos côtés les Highlands à la redécouverte, notamment des grandes traditions écossaises.
Eh oui, alors il faut vous dire que ces clans, hein, comme on les appelle, ces espèces de réseaux familiaux, sont absolument essentiels. Il y a tout un système qui est post-féodal, incontestablement. Je ne remonte pas sur toute l'origine hein, de l'Écosse, qui d'ailleurs a été peuplée très tard. Comme toutes ces régions très nordiques, les Highlands sont peuplés au mieux au 5e millénaire avant notre ère. Les Celtes ont fini par envahir la région, mais on a presque l'impression qu'ils ont hésité pendant longtemps avant de le faire. Ils n'y arrivent qu'au 6e siècle. La région a été, elle a été christianisée par le célèbre Saint Colomba, qui est fondamental là-bas. Et on a eu d'ailleurs ce mélange entre un fond de culture viking et les nouvelles mœurs chrétiennes, et tout ça a fait souche sur place, bien entendu, au 8e, 9e siècle, avec l'installation de ces clans, des clans que vous retrouvez toujours aujourd'hui. Alors, ils n'ont pas plus tout à fait ni la même vigueur, ni la même importance, mais tout de même, vous savez, lorsque vous parlez avec des Highlanders, très vite, ils vont vouloir savoir à quel clan vous êtes, sinon apparenté, du moins affidé. Ça fait vraiment partie de la vie de cette Écosse, et surtout de ces Highlands, 168 clans qui sont encore aujourd'hui debout, si je puis dire, avec chacun ses traditions, ses couleurs d'une certaine manière. Je vous parlais de tartan tout à l'heure, on parle toujours de kilt, hein. Vous savez, dès qu'on parle d'Écosse, évidemment, les gens pensent au kilt. D'ailleurs, je n'ai qu'à lire les messages qui sont arrivés sur Facebook avant le début de l'émission, on se demandait même si j'allais pas finir par présenter l'émission en kilt. Non, on n'ira pas jusque-là dès aujourd'hui. En tout cas, ces kilts, ils sont faits dans une étoffe bien particulière qu'on appelle le tartan, qui est l'un des symboles les plus forts de la région. C'est le costume traditionnel des Highlands. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on pourrait croire que cette habitude de porter ces espèces de jupes écossaises, disons, remonte très loin. Eh bien, pas du tout. En fait, c'est une tradition relativement récente. Elle puise ses racines assez loin, mais en vérité, elle n'a été rétablie qu'au XVIIIe siècle. Et même, pour tout vous dire, on ne s'est remis à porter le kilt réellement qu'au XIXe siècle. Ça faisait partie de la couleur locale, à l'époque notamment où la reine Victoria et son mari, le prince Albert de Saxe-Cobourg, vont tomber amoureux de l'Écosse et vont vouloir essayer de séduire les Écossais, si je puis dire, et eux-mêmes vont adopter, pour leur famille, pour leurs habitudes, vont adopter un certain nombre des mœurs et des coutumes écossaises. Alors, je ne vais peut-être pas revenir sur tous les aspects de cette tradition. On a entendu là la cornemuse. Ne croyez pas que la cornemuse soit spécifiquement cantonnée dans les Highlands. Ce n'est sûrement pas le cas. Mais c'est vrai que là encore, c'est un instrument qui est indéfectiblement attaché à la culture écossaise. En vérité, l'instrument en question provient du Moyen-Orient. C'est un instrument paysan qui ne s'est développé dans cette région, qui ne s'est développé d'une façon générale dans les îles britanniques qu'aux alentours du XVIe siècle, et qui là encore ne va acquérir ses lettres de noblesse qu'au XIXe siècle. C'est ce sac qui est en peau de chèvre, avec ses flûtes, ce tuyau sur lequel se joue la mélodie. Mélodie qui joue sur quelques harmonies, bien entendu. Mais quand vous connaissez bien l'instrument et que vous vous êtes familiarisé à ce son-là, vous découvrez qu'en fait c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus varié. Il y a beaucoup plus de variations possibles que ce qu'on pourrait imaginer. Bref, vous aurez compris que cette Écosse dont nous parlons et qui fait rêver l'Europe entière avec ses traditions qui paraissent ancrées dans la nuit des temps, elle s'est constituée comme entité culturelle aussi spécifique que d'une manière relativement récente et surtout, disons-le, au lendemain de cette célèbre bataille de Culloden dont je vous parlais, bataille au cours de laquelle les troupes anglaises du duc de Cumberland vont écraser celles de Bonnie Prince Charlie. Bonnie Prince Charlie, c'est le prétendant Stuart au trône d'Écosse, hein, bien entendu. Charles-Édouard Stuart, qui était soutenu par les Français, entre guillemets, je dis soutenu entre guillemets, parce que comme très souvent dans l'histoire de France, ça n'est pas ce que nous avons fait de mieux, nous poussons nos alliés à se révolter contre nos ennemis, et puis au moment où ils lancent le combat, eh bien, la France, on l'attend et on se demande où elle est. Hein. C'est un peu ce qui s'est passé là, en l'occurrence. Ça a été terrible, hein, bien entendu, cette bataille du 16 avril 1746, avec une sorte de débâcle du côté des clans et des Highlanders qui ont été écrasés par les Britanniques. C'est qu'on a poursuivi certains jusque dans le fin fond des bois, des forêts, et quand vous vous promenez aujourd'hui encore dans un certain nombre de bois des Highlands, vous avez de petits cairns, vous avez des petites bornes si vous voulez, avec des noms, avec des croix qui indiquent l'endroit où sont morts les différents combattants, parfois très loin du champ de bataille lui-même. Évidemment, les chefs de clan à partir de là n'ont plus eu du tout ni le même prestige ni la même force. Il faudra attendre des décennies pour que l'Écosse puisse retrouver ses traditions, puisque pendant très longtemps, on va dire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les Anglais ne veulent plus entendre parler des traditions, du folklore de l'Écosse. Au XIXe siècle, il y a eu par ailleurs cette terrible famine. On est au milieu du XIXe siècle, en 1846, famine qui va toucher alors là les villes plus spécialement et qui va être le point de départ de cette immigration, de cette émigration, si je me place du point de vue des Écossais, émigration massive vers un certain nombre de pays de ce qui constituera le Commonwealth, hein, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, bien entendu, où il y a énormément d'Écossais qui sont venus fonder de nouvelles familles et de nouvelles dynasties. Alors, c'est vrai, je vous le disais, que la reine Victoria va essayer de relancer l'Écosse d'une certaine manière. Il y a un auteur qu'on ne peut pas manquer de citer, c'est Sir Walter Scott, bien entendu. On est là dans tout un mouvement romantique qui va faire briller la culture écossaise. C'est là qu'on se met à parler justement du fameux monstre du Loch Ness, etc. Alors, le monstre du Loch Ness, il ne devient vraiment très célèbre que dans l'entre-deux-guerres, hein. Dans les années 1930, à partir du moment où il y en a un qui arrive à le photographier, pense-t-on. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cliché? Que faut-il en penser? Ça, ce serait l'objet quasiment d'une émission à part entière. Je ne vais pas me lancer là-dedans aujourd'hui. Le chardon, en tout cas, qui est le symbole de l'Écosse, le chardon, thistle en anglais, qu'on retrouve bien entendu comme emblème de l'équipe de rugby, hein, les 15 du chardon. Ce chardon va devenir un point, une sorte d'emblème de ralliement pour des Écossais qui de plus en plus sont fiers de leur identité, fiers de leur tradition, fiers de leur folklore. Et au milieu de cette identité, de cette tradition, de ce folklore, nous avons bien entendu les Highland Games.
Au cœur de l'histoire, votre émission. N'hésitez pas à réagir, nous envoyer vos messages, vos questions quand vous le souhaitez sur la page Facebook de l'émission, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH et puis par mail europe1.fr. Nous retournerons au cœur de l'Écosse avec vous Franck Ferrand dans un instant pour continuer de parler des Highlands, des traditions écossaises et bien sûr des Highland Games.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur des Lochs, des Glens et des Landes, vous évoquez Franck Ferrand l'Écosse, ses traditions et ses fameux jeux de force, les Highland Games.
Eh oui, c'est Highland Games ou Highland Gatherings, qui sont donc des réunions sportives, en même temps que des concours de musique d'ailleurs. Et on peut dire que nos Niortais, enfin les habitants de Bressuire qui accueillent les Highland Games encore cette année, respectent cette tradition puisqu'on va aussi en profiter pour faire de la musique. Il y a toutes sortes d'arts celtiques qui se manifestent au cours de ces Highland Games. Alors, à quand remontent les jeux en tant que tels? Au Moyen-Âge, aux environs du XIe siècle, semble-t-il, lorsque le roi d'Écosse, Malcolm Canmore, a l'idée d'organiser des épreuves d'agilité et d'adresse. Alors, pour quel est le but? Mais comme souvent en Angleterre, et Jean Durie va nous raconter ça dans un instant, parce qu'on est là à l'origine de tous ces jeux, comme souvent, il s'agit de recruter les meilleurs serviteurs. Vous savez, on veut des valets de pied, on veut des valets, d'une manière générale, qui soient rapides, habiles, malins. Et donc, évidemment, on organise des épreuves pour les sélectionner, sauf qu'évidemment tout ça va prendre très vite une extension considérable. La tradition existe, il va falloir ensuite la perpétuer, et ça, elle est perpétuée d'abord par les clans, et toujours, et par les fameux chefs de clan. Et on va organiser peu à peu des concours, hein, des réunions, à qui fera la plus extraordinaire et la plus magnifique. Évidemment, ce sont, comme bien souvent dans ce genre de manifestations, ce sont les plus forts qui se taillent les plus grands succès. On veut réaliser un peu une sorte de reconstitution moderne des 12 travaux d'Hercule, si vous voulez. Et on reprend d'ailleurs un certain nombre des épreuves qui avaient été imposées à Hercule, et des épreuves qui sont essentiellement physiques, bien entendu. Alors ces Highland Games, ils vont se développer pendant tout le début du XVIIIe siècle. Et puis, comme pour le reste, ça s'arrête en 1846. Avec la bataille de Culloden, puisque à partir de ce moment-là, les Anglais, je vous l'ai dit, hein, les Anglais interdisent de fabriquer des tartans, de jouer de la cornemuse, et même les habitants de l'Écosse n'ont même plus le droit de porter des armes. Vous imaginez, ça va durer jusqu'en 1780. Et puis, au début du 19e siècle, comme d'habitude, là encore, ce sont les Anglais eux-mêmes qui vont vouloir remettre ces tournois à la mode. Ce sont des tournois qui sont disputés en kilt, bien entendu, uniquement par des hommes à l'époque, au son des cornemuses. Là, on est vraiment dans... Je vous parlais d'un folklore romantique tout à l'heure. Là, on y est vraiment. Alors, en quoi consistent les épreuves? Je vais y venir dans un instant avec mon invité, mais ce sont des épreuves de course à pied, des épreuves de lancer de poids. Quand je dis de poids, c'est souvent des grosses pierres qu'il faut lancer le plus loin possible, des lancers de marteau, des épreuves, on pourrait dire, de pré-athlétisme d'une certaine manière. Et puis, ne l'oublions pas, ce fameux lancer de tronc d'arbre. Alors, quand je dis lancer, c'est pas tout à fait vrai. En fait, on a un tronc de sapin qui mesure environ 6 mètres de haut. Ça pèse plus de 60 kilos, hein, quand même, la petite plaisanterie. Et le but, ça n'est pas de lancer le tronc le plus loin possible, c'est de lui faire faire un demi-tour complet. Évidemment, ça, c'est très spectaculaire et ça fait généralement de belles images pour le journal de 20 heures. Ça amuse la foule, bien sûr, et c'est un art, car il ne faudrait pas croire que ça se fasse comme ça. Ça obéit à des règles extrêmement précises. Il faut beaucoup d'entraînement pour y parvenir. C'est un art que ce lancer de tronc, si l'on peut dire. Alors, il y a aussi du tir à la corde, bien entendu. Je vous parlais des concours de musique, des airs de danse, des marches militaires, etc. Tout ça à la cornemuse. De la danse folklorique, qu'on appelle le Highland Dancing. Bref, vous voyez que c'est toute une culture qui se retrouve et qui se donne à voir au cours de ces manifestations. Alors d'où vient-il que les Jeux aient quitté l'Écosse? Ça, je vous avouerai que c'est une grande question. Ces Jeux, ils ont toujours lieu lorsqu'ils sont en Écosse, et notamment dans les Highlands, ils ont toujours lieu à la belle saison, hein, de fin mai à début septembre, parce que la belle saison ne dure pas très longtemps en Écosse. Le village de Serres se vante d'accueillir les Jeux les plus anciens d'Écosse. Ça a lieu le 26 juin. À Braemar, le 4 septembre, on a l'honneur d'accueillir la reine en personne. Sa gracieuse majesté vient assister aux Highland Games. On a toutes sortes de nouvelles épreuves, hein, d'ailleurs, qui sont proposées tous les ans. Et puis, et c'est là que c'est extraordinaire, la grande manifestation à l'échelle mondiale dans cette spécialité, c'est pas du tout en Écosse qu'il faut aller la chercher. Désormais, c'est en France, c'est dans les Deux-Sèvres, c'est à Bressuire et ça aura lieu samedi et dimanche prochain. Bonjour Jean Durie.
Bonjour.
Vous venez nous parler d'habitude de sport olympique, j'ai presque envie de dire académique. Eh bien, aujourd'hui, on va vraiment vous faire sortir de l'académisme.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Franck Ferrand, l'invité d'honneur des Highland Games au château de Bressuire dans les Deux-Sèvres les 13 et 14 juin.
Et oui, mon impatience a pris le dessus et ce n'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après, hein, le 13 et 14 juin.
Exactement, et les Jeux de force écossais sont au cœur de l'histoire. Cet après-midi, vous recevez l'écrivain et historien du sport Jean Durie, fondateur du Musée National du Sport et auteur de l'ouvrage pour les enfants avec Thomas Tessier, Tour du monde des sports, qui paraît ce mois-ci aux éditions Rue des Enfants.
Un formidable petit ouvrage où vraiment les bases du sport sont très bien expliquées aux enfants. Mais alors, quand je viens à la page lutter, 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 double page Jean Durie, où vous nous parlez alors évidemment des lutteurs grecs, c'est évident, mais aussi de ceux de la Suisse, hein, avec la lutte au caleçon ou à la culotte. Vous nous parlez des sumo du Japon, de certains combattants du Sénégal, du Niger, etc. Vous nous évoquez bien sûr les extraordinaires lutteurs turcs depuis la fin du XIVe siècle. Mais on ne voit pas, on n'entend pas parler de tir à la corde ou de discipline de lutte bretonne ou grand-bretonne.
Cher Franck, vous auriez dû aller un peu plus loin livre. Et on y parle des jeux de force.
De jet, oui.
Et notamment des Highland Games, si on veut, le tossing de caber. Et puis aussi des jeux des bûcherons canadiens, timber.
Alors, il faut que nous revenions sur ces différents jeux, mais d'abord, de quand peut-on dater ce genre de réunion athlétique? Parce que ce sont des réunions qui sont des réunions à date régulière.
Oui, vous m'avez appris quelque chose tout à l'heure, et j'en étais bien content, à savoir que ce serait né au XIe siècle.
Oui, c'est la légende.
Mais si vous et moi, Franck, avions travaillé sérieusement le sujet. Nous aurions traversé la Manche et nous aurions été consultés deux ouvrages qui sont devenus absolument rarissimes. L'un est de 1891 de W. Maccombie Smith, The Athletes and Athletic Sports in Scotland.
Alors là,
pas
là,
besoin
tout
de traduire pour nos auditeurs. Et puis en 1901 de Charles Rawlinson, Men of Muscle, les hommes du muscle, and the Highland Games of Scotland. Et alors, ça nous aurait dit quoi? Ça nous aurait dit que, en fait, comme vous l'avez bien évoqué tout à l'heure, il y a eu le moment où, étouffés par les Anglais, ces réunions même ont disparu. Et puis, ces deux livres nous auraient parlé en particulier de la période 1860-1900, où notamment un Lord Holland, dans le jardin, dans le parc de son château de Kensington, essaye justement de redonner vie à ce qui est le lancer du marteau, les jeux de marteau, mais c'est un marteau très spécial, pas comme le marteau de l'athlétisme d'aujourd'hui, en ce sens que c'est une perche très dure, au bout de laquelle est un poids, qu'il s'agit de jeter, une perche rigide, pas un câble en acier comme aujourd'hui. Et puis, il y a les courses, et puis il y a tossing the cover. Et alors, à l'époque, vous nous disiez un sapin de 6 mètres, ça parle encore d'un sapin de 4 mètres, qui est bien entendu ébranché, aminci, et qu'il s'agit de jeter avec
et de renverser, en fait,
comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Et puis, tout de même, c'est intriguant, vous qui êtes le parrain maintenant depuis plusieurs années, c'est intriguant de voir qu'on prétend organiser des championnats du monde, des Highland Games, à Bressuire dans les deux
Sèvres. Alors là, c'est quand même inouï.
Est-ce qu'il s'agit d'une exportation, je dirais, accidentelle et sympathique? Est-ce qu'il s'agit au contraire d'un début d'essai de mondialisation des Highland Games? C'est ce qu'on va voir un peu ensemble. Et ce qui est intéressant comme sujet aujourd'hui, au-delà des Highland Games, c'est la normalisation, robotisation du sport moderne par rapport à des jeux très originaux comme ceux-ci.
Des jeux qui avaient une sorte de suc, hein, de saveur très particulière. Alors que font ces Highland Games dans les Deux-Sèvres, Jean Dury?
Ah, alors là, je pensais que c'était vous qui me donneriez la réponse, puisque pour moi, ça reste un sympathique mystère. Et on voit que ceux qui vont y participer cette année, ce sont des Néo-Zélandais, des Américains du Nord, Canadiens en particulier, et puis pour l'Europe, la Belgique et les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Écosse, bien sûr, et puis la Hongrie et la Pologne. Un Français, sans doute, je ne le sais, mais il y a un nom qui retient notre attention, c'est celui de Robert Fazeka. C'est un Hongrois, et son Hongrois, il a bel et bien été champion d'Europe pour la Fédération internationale d'athlétisme, donc un sport olympique, un sport classique d'aujourd'hui, comme vous le disiez, en 2002, et médaillé d'argent du disque au championnat du monde à Paris en 2003. Autrement dit, c'est un pratiquant des sports d'aujourd'hui, mais qui s'est reconverti vers les Highland Games.
Ces Highland Games qui sont sortis d'Écosse, si l'on peut dire, il y a quelques dizaines d'années, qui ont conquis tous les continents, hein, puisqu'il y a des épreuves importantes à San Francisco, on en trouve en Allemagne, bien entendu, et donc maintenant à Bressuire, puisque les Highland Games qui vont avoir lieu là dans 15 jours, disons les 13 et 14 juin à Bressuire, sont les plus importants du monde. C'est l'association AGF Highland Games a organisé plusieurs championnats d'Europe amateur et pro et une manche de Coupe du Monde en 2010. C'est un club très important et qui est en train de développer cette nouvelle tradition dans l'ouest de la France. On est quand même assez loin du climat et du décor de l'Écosse, hein, il faut bien le dire.
Alors, bon, on a parlé d'Écosse, bien entendu, mais aux origines du sport, on pourrait parler de l'Irlande, avec en particulier le géant Cuchulainn, qui en 1860 avant Jésus-Christ est censé lancer une roue de chariot à des distances invraisemblables. Et puis, le livre de Leinster, c'est un manuscrit tout à fait étonnant du XIIe siècle, qui est conservé à la Trinity College de Dublin, nous parle aussi de ces jeux de talent qui auraient eu lieu en 860 avant Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est donc avant la date théorique de la naissance des Jeux Olympiques à Olympie en 776 avant Jésus-Christ. Mais là, à Olympie, On a un exemple de ces exercices de force auxquels se livraient les anciens, puisque au musée d'Olympie, il y a la fameuse pierre de Bibon, qui est un petit bloc qui pesait 143,5 kg.
Bibon, du nom de l'athlète.
Du nom de l'athlète qui, au 6e siècle avant Jésus-Christ, l'a lancé, mais on ne sait pas à quelle distance. Et puis ensuite, on apprend que...
Quand même, lancer une pierre de 100, presque 150 kg, ça paraît un peu étonnant.
Et puis alors ensuite, on sait que Édouard VII d'Angleterre a, dans un de ses édits qui voulait favoriser le tir à l'arc, interdit le lancer de pierre, mais qu'en revanche, Henri VIII, le rival de votre ami François Ier, était excellent au lancer du marteau. Et ça nous amène peu à peu au temps moderne.
Et à une sorte de revival, on peut dire. Il y a eu un nouvel engouement pour ces jeux à la fin du 19e siècle.
Qui est tout à fait intéressant.
D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les livres dont vous parliez tout à l'heure sont écrits à la Belle Époque, parce qu'il y a, il y a un intérêt nouveau pour ces traditions à ce moment-là.
C'est certain. Alors, ce qui est amusant pour nous, ou peut-être intéressant, si vous me donnez deux minutes, c'est de montrer le processus de normalisation qui amène de ces sports qui n'en sont pas encore aux sports modernes.
Ah, mais ça, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie, si vous le voulez, puisque nous allons en quelque sorte quitter l'Irlande et revenir sur l'origine, l'Écosse, revenir sur l'origine des jeux de force en général, et puis justement à ce processus de normalisation vers des disciplines qui seront ensuite les disciplines olympiques. Je ne peux pas citer tout le courrier qui nous arrive via Internet et Twitter, etc. C'est Brigitte notamment qui nous parle de ces paysages fabuleux, de loques, de petits villages, etc. Elle a aussi été émerveillée, nous dit-elle, par le musée des Beaux-Arts d'Édimbourg l'année dernière lors d'un voyage qu'elle a fait en Écosse. Et elle a tout à fait raison, Brigitte, de souligner la qualité de la peinture écossaise et puis surtout des collections de ce musée qui est un des plus beaux du monde. Et les îles Hébrides, demande Evelyne. Dans sa trilogie écossaise, nous dit-elle, l'écrivain Peter May en parle beaucoup, ainsi que des traditions locales. Oui, c'est vrai, on pourrait faire une semaine entière si l'on voulait consacrer un peu de temps à l'Écosse.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Les jeux et les sports de force sont au cœur de l'histoire et vous recevez Franck Ferrand, l'écrivain et historien du sport Jean Dury, fondateur du Musée National du Sport et auteur de l'ouvrage pour les enfants avec Thomas Tessier, Tour du Monde des Sports, qui paraît ce mois-ci aux éditions Rue des Enfants.
Oui, le Tour du Monde des Sports pour partir à la découverte des sports d'ici et d'ailleurs, et on pourrait dire aussi d'aujourd'hui et d'hier. Ce qu'il y a d'assez fascinant dans ces réunions qui font revivre des traditions comme celle de l'Écosse, en l'occurrence avec les Highland Games, c'est qu'on voit que on avait l'habitude de se mesurer à plus fort que soi depuis très très longtemps et dans toutes les régions du monde. Le sport est aussi vieux que le monde, Jean Dury, et aussi loin que l'histoire nous permette de remonter, on se rend compte qu'il y avait des réunions sportives.
Bien sûr, puisque par exemple, il y avait les lutteurs de Beni Hassan, c'est une fresque dans une pyramide de 1850 avant Jésus-Christ. Il y a eu bien entendu les jeux des Mayas et des Aztèques, les jeux de pelote, et puis la lutte partout dans le monde.
Oui, et puis on pense aussi à ces sauteurs de taureaux en Crète, par exemple. Etc. Bon, il y a beaucoup de...
Ça nous ramène à la perche. Et alors, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est intéressant d'essayer de montrer la façon dont on est arrivé au sport d'aujourd'hui. Alors, je vous prends un exemple, c'est celui de l'haltérophilie. Un Thomas Topham à Derby en 1731, il a une sangle autour du cou et des épaules, il est monté sur un échafaudage, il est capable de soulever 3 tonneaux remplis d'eau qui pèsent 1851 livres anglaises. Mais je nous mets en 1846, c'est-à-dire un siècle après Culloden. Et au 36 Allée des Veuves, c'est-à-dire exactement Avenue Montaigne, c'est-à-dire presque à l'endroit où est notre studio, Antoine Hippolyte Tria fonde un gymnase. Et il va se servir d'haltères, avec en particulier un halter très lourd parce que déséquilibré. Puis en 1892, on a l'homme le plus fort du monde de l'époque, et qui d'ailleurs fait le tour du monde. Il s'appelle Louis Uny, mais on l'appelle Apollon, il est né à Marcillargues. Et il va faire des bras tendus avec un poids rectangulaire de 80,5 kg, et il sera capable de soulever un essieu de wagon de chemin de fer, le célèbre essieu d'Apollon, qui pesait 165 kg. Mais ce n'est toujours pas le sport. À la fin du 19e siècle, il y a des débuts de championnat du monde, des essais à Bruxelles, à Vienne. Mais c'est un certain Edmond Desbonnet qui s'installe 48 rue du Faubourg-Poissonnière et qui, en 1902, fonde l'Haltérophile Club de France, avec des dynamométreurs qui mesurent cette fois d'une façon rigoureuse les performances. Et puis une fédération est créée en France en 1914, la Fédération internationale en 1920, mais à ce moment-là, c'est encore très incertain, il y a des tas de mouvements, on ne sait pas. Aujourd'hui, l'haltérophilie, les poids et haltères, devenus haltérophilie, ça se réduit exactement à deux mouvements au niveau des Jeux Olympiques, qui sont l'arraché et l'épaulé jeté. Donc, on voit bien le système et la façon dont petit à petit...
Comme une sorte d'entonnoir et on vient à une épure qui se formalise avec des règles qui deviennent universelles et avec aussi des instruments de mesure. Vous parlez dans le livre de la naissance du chronographe qui va permettre de mesurer le temps et donc...
D'avoir des records.
Voilà.
D'avoir des records. Et... vous le définissez bien, l'une des normes du sport d'aujourd'hui, c'est que, premièrement, il est ouvert à tous, pas seulement aux hommes libres, comme dans la Grèce antique. Il a ses sites propres, ça n'est pas une prairie, un flanc de montagne, mais il a ses stades, ses installations, il a son calendrier qui est extrêmement chargé, et puis surtout, il a des règles universelles qui sont adoptées partout. La barre de son hauteur se franchit d'une certaine façon, les buts de football ont certaines dimensions, le poids pèse 7,257 kg et est lancé d'un diamètre qui fait d'un cercle qui fait un diamètre de 2,135 mètres. Donc les choses sont infiniment précises. Et alors, c'est l'envie de revenir vers ces sports.
Ah ben j'allais y venir.
Du départ.
À partir du moment où vous définissez ces cadres qui deviennent des cadres extrêmement fermes, on se dit qu'automatiquement, il y a des gens qui vont vouloir aller un peu dans les marges et qui vont faire renaître des disciplines qui, elles, n'ont pas encore été à ce point formalisées.
C'est... Oui, alors c'est par exemple le cas du timber. Timber, c'est le tronc d'arbre. Ouais. Et c'est le cri des bûcherons canadiens. Et le timber va permettre, au moment où on abat d'énormes troncs d'arbres, ça a été le cas en Tasmanie, c'est-à-dire en Australie, aux États-Unis, au Canada, ça va permettre des compétitions de bûcheronnage, des compétitions
qui au départ sont informelles.
Bien sûr, pour faire flotter aussi les billes de bois le long de la rivière. Et puis, ça aussi, c'est soumis au mouvement que nous évoquons. C'est-à-dire que maintenant, il y a des compétitions qui sont de plus en plus formatées, où non seulement c'est le bûcheronnage, et ça va nous amener au jeu de force basque dans un instant, mais il y a des épreuves de vitesse pour grimper sur un tronc en se servant d'une hache comme d'un degré d'escalier. Il y a le lancer de la hache, il y a des courses d'obstacles autour de ces troncs tombés par terre, et puis il y a même, avec la tronçonneuse, de la sculpture sur tronçonneuse. Donc, des épreuves de plus en plus codifiées. Alors, j'évoquais le bûcheronnage, ça m'amène évidemment à parler des
du
jeux
basque.
De force basque.
Ah oui.
Des forces basques. Parce que, là aussi, c'était au début totalement informel. Aujourd'hui, c'est organisé régulièrement dans des arènes comme l'arène de Bilbao ou de San Sébastien ou dans des places de ville et ça conduit à des auditoires de 20 000 spectateurs, une chose énorme. Alors, les jeux de force basque, c'était vraiment l'authenticité totale. Et ça a été évoqué dans les colonnes de l'équipe il y a une semaine par un pilier de rugby aujourd'hui qui a 60 ans du Biarritz Olympique, Pascal Ondars, et qui lui-même était d'un petit village à 40 km de Bayonne et qui a vécu ces jeux de force basque et il disait se charger d'un sac de 100 kilos, courir 100 mètres et revenir, 5 minutes de récupération, et puis soulever une charrette qui pèse 350 kilos, et puis recommencer. C'était magnifique, c'était formidable, c'était village contre village. Voilà l'essence des jeux de force basque, et qui sont innombrables, avec le perçage du rocher, avec le fauchage de l'herbe, et on pourrait en citer d'autres, bien entendu.
Avec trois aspects là-dedans, c'est-à-dire il y a évidemment un rite d'initiation, d'une certaine manière, hein, on veut montrer sa force, sa virilité, etc. Ça nous ramène sans doute à des rites très très anciens dans les différentes cultures, avec la volonté de se regrouper également. Vous dites village contre village, donc il y a une forme de structuration sociale autour de ces sports. Et puis troisièmement, ce que vous évoquiez, c'est-à-dire un chemin vers des règles de plus en plus précises et qui aboutiront un jour à ce qu'on appelle le sport, au sens moderne du terme.
Autre chose qui intéresse l'historien Franck Ferrand, c'est que on a par exemple à Unspunen, qui est au pied de l'Oberland bernois vers Interlaken, en 1805,
en Suisse, là,
on soulève là une pierre qui fait quelque chose comme 184 kilos. Mais la première constitution fédérale de la Suisse est de 1848. Et juste à ce moment-là, les sociétés de gymnastique en Suisse se créent et elles vont donner une renaissance des sports spécifiquement suisses, la lutte au caleçon que vous évoquiez tout à l'heure, le hornus qui se joue avec de grandes palettes, et puis, bien entendu, tout ce mouvement a donc une cause historique, parce qu'en 1805, la Suisse est occupée par les Français, les armées de Napoléon. Et de la même façon, les choses avancent au fil de l'histoire. Et en réaction à l'histoire, comme on peut dire que les Highland Games sont un cri identitaire au départ, bien entendu.
Oui. Alors, certains de nos auditeurs reviennent sur la lutte de paternité entre l'Irlande et l'Écosse sur un certain nombre des traditions dites écossaises et qui, pour certaines, seraient nées en Irlande. Je ne vais surtout pas mettre les pieds là-dedans, inutile de vous le dire. Il y aurait beaucoup à dire sur tous ces sports. Ils ont tendance à se développer aujourd'hui. Comment l'homme du sport, au sens olympique du terme que vous êtes, Jean Durie, voit-il se développer toutes ces épreuves dans tous les domaines? On me signale par exemple que les championnats d'Europe de lutte celtique aura lieu à Brest en avril 2016, enfin, etc. La lutte écossaise, Backhold, est une des luttes pratiquées dans ces sports, me dit-on.
Écoutez, je vois ça avec sympathie. À partir du moment où ça ne deviendrait pas des opérations commerciales déguisées. Alors, vous avez parlé, pardon à nos auditeurs, vous avez parlé du tir à la corde, c'est-à-dire le tug of war. Savez-vous que le tug of war a été au programme des premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne?
Il a disparu du programme. Pourquoi on a jugé que c'était pas assez
noble?
Parce
que c'est très difficile à arbitrer, vous savez. C'est très difficile à arbitrer. Pour le reste, bien sûr, tout cela se développe. Et puis, les choses sont toujours des retours aux sources. Par exemple, le surf, c'est bel et bien la reprise de ce qui avait été inventé en Polynésie il y a très longtemps, et notamment au XIXe siècle.
Donc, ces Highland Games auront lieu au château de Bressuire les 13 et 14 juin prochains, avec par ailleurs 150 musiciens, danseurs, etc., des danseurs écossais et irlandais.
Un dernier mot de ma part. Je voudrais évoquer un livre, Encyclopédie des sports, de Wolfgang Lipponski. C'est paru en 2005, sous l'égide de l'UNESCO, et il y recense plus de 3000 jeux et sports à travers le monde entier. Alors, la vraie question pour moi, c'est de savoir si petit à petit, le nombre va se réduire, comme c'est le cas pour les langues à travers le monde. Des milliers de langues ont disparu, il en reste à peu près 5000 à travers le monde.
Et
où en serons-nous en 2050 quand nous nous retrouverons au micro d'Europe ?
N'est-ce pas ? Le tour du monde des sports, pour partir à la découverte des sports d'ici d'ailleurs, c'est un album extrêmement pédagogique, très ludique, très bien fait, de Jean Durie et Thomas Tessier.
Charmant dessin de Thomas Tessier qui sont drôles et spirituels.
Tout à fait, chez l'éditeur Rue des Enfants. Merci beaucoup Jean Durie d'être venu éclairer un peu notre lanterne sur ces pratiques extraordinaires qui sont en train de ressurgir ici et là.
Vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Franck Ferrand vous répondrait à la question de Diala sur l'origine de l'expression « au diable Vauvert ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez à la question de Diala qui vous demande, Franck Ferrand, via la page Facebook de l'émission, d'où vient l'expression « au diable Vauvert ».
Alors, au diable Vauvert, ça veut dire aller très loin dans un lieu inaccessible, s'en aller à Pétaouchnock d'une certaine manière. Ça vient du château de Robert le Pieux, Robert II, vous savez, qui au XIe siècle était un roi. Il avait fait construire ce château. On est à une époque où la montagne Sainte-Geneviève abrite encore des vignes. Hein. Et ce château se trouvait sur la rue d'Orléans, bien loin de l'enceinte de Paris à l'époque, alors qu'aujourd'hui, bien sûr, on est en plein milieu du jardin du Luxembourg, comme vient de le dire Marion Ruggieri, là, juste à ma gauche. Et c'est un endroit qui est devenu très mal famé à partir de l'excommunication de Robert le Pieux, qui avait répudié sa femme, Rosala. Il faut dire qu'elle avait 50 ans, il n'était plus question qu'elle procrée à l'époque. Il décide d'épouser sa cousine Berthe de Bourgogne, dont il est très amoureux, ce roi. Le pape va refuser de valider l'union. Il accuse le roi de bigamie, d'inceste, et donc il excommunie le nouveau couple. Il prononce l'anathème, ce qui veut dire que ce couple est maudit, et non seulement ce couple, mais la cour autour de lui, et l'endroit où tout ça se passe, c'est-à-dire le fameux château, qui peu à peu va prendre des allures de château hanté. Alors on dit que par la suite, au XIIe siècle, des bandits, des brigands vont occuper les lieux, qu'ils sèment la terreur alentour, qu'on raconte qu'il y a des cris, des hurlements qui sortiraient la nuit de ce château. Vous savez, toutes ces espèces de légendes, bien entendu. Des spectres se promèneraient chaînes aux pieds. Il y aurait même une sorte de monstre terrifiant, mi-homme, mi-serpent, qui aurait élu domicile dans ce quartier du Val-Vert. Vauvert, Val-Vert, ça vient du fait tout simplement qu'il y avait de la verdure à l'époque, encore une fois, qu'on était au milieu des champs. Voilà donc l'origine du terme, le château de Vauvert. Aller au diable Vauvert, c'est aller fréquenter les démons qui auraient ressurgi dans les parages sur le fantôme de Robert le Pieux. Voilà l'origine de l'expression qui va prendre une toute autre signification au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle. Aller au diable Vauvert, ça devient une charmante expression pour désigner tout simplement l'éloignement.